radio Campus Lille, 106.6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Il existe à Lille un jardin extraordinaire, celui du Tirlaine, la compagnie de musiciens, et pas que d'ailleurs, qui donc a son quartier de résidence aux 50 rues de Thumesnil à Lille. Et demain, il y aura un moment d'échange entre citoyens sur des thèmes d'actualité. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Vlad. Bonjour Vlad.
Salut René, ça va ?
Heureux de te retrouver.
Ah, ça fait plaisir d'être de retour ici.
Voilà, comme régulièrement. Tu sais, j'ai passé l'été dans la région et je suis venu à votre grand méchoui barbecue, etc. Là, c'était magnifique place. Là.
Cette rencontre qu'on fait une fois par an sur la place des Lieux. Là, c'était particulièrement réussi. On est vraiment ravis de ce moment-là.
Donc, comment je peux dire ? C'est un temps... Bon, il faisait très beau, il y avait une belle ambiance, tous les gens du quartier étaient là. Ça faisait plaisir à voir.
Bah ouais, en fait, c'est un des seuls événements que des gens organisent sur la place des Lieux de Lille à Moulins, qui est en face de la fac de droit, qui est un endroit qui n'est pas du tout exploité, en fait. Parce que bon, c'est assez bétonisé, il y a un peu de jeux pour enfants, mais surtout un point de deal, en fait, assez chargé, en fait, pendant toute l'année. Et nous, du coup, avec le Tirlaine, puisqu'on est juste à côté, rue de Thumesnil, on s'est dit depuis des années que pour fêter un peu notre fin de saison, en quelque sorte, au moment où les bureaux partent un peu en vacances, les musiciens continuent de travailler, bien sûr, mais ça serait l'occasion de pouvoir créer un gros événement de quartier. Vraiment pour les familles, pour les gens du quartier, pour que tout le monde se retrouve autour de musique et autour de trois gros agneaux à la broche qu'on fait cuire toute la journée, où les gens peuvent acheter des assiettes pour 2 euros, et puis boire un petit coup, et puis se poser là sur des tables, et écouter un peu de musique, et passer du bon temps ensemble, danser aussi. Et en fait, à chaque fois, c'est une belle, belle réussite, mais particulièrement l'année dernière. On a eu vraiment beaucoup de monde.
Enfin, cette année, hein.
Oui, oui, c'est vrai, cette année, ouais. Je réfléchis en saison.
Donc, c'est vrai que le temps passe vite avec la rentrée, il y a beaucoup d'activités, j'imagine, pour vous en tant que compagnie.
Ouais, ouais, ça n'a pas toujours été le cas. 2023, c'était une année qui était compliquée pour nous pour plein de raisons, mais où nous, notre activité principale, c'est de produire et de diffuser des groupes de musique et des spectacles dans le domaine du spectacle vivant en général, des musiques du monde, tout ça. Et donc, on est forcément tributaire de la situation économique et de ce qu'on arrive à vendre à l'année. Mmh. Et là, 2023, c'était une année bien entendu très compliquée, pour, pas que pour nous, pour plein d'autres gens. Et 2024, on s'est retroussé les manches, on s'est vraiment resserré en tant qu'équipe, avec les artistes, avec les équipes permanentes. Et on a réussi à faire vraiment une belle saison et qui se confirme là du coup encore en septembre, parce qu'en plus de tous les concerts qu'on vend à l'extérieur, on organise aussi beaucoup d'événements chez nous, dans notre lieu au 50 rue de Thumesnil, des apéros-concerts pour les adhérents, notre braderie annuelle qu'on organise aussi chez nous, et donc du coup cette fameuse soirée Camanettes qui sont un peu la nouveauté de cette saison 2024 et pour les autres saisons à venir. Quoi.
Voilà, alors chez vous il y a des groupes, on veut dire, c'est un peu multiforme, hein, on retrouve des formations qui peuvent s'organiser de manière différente selon les concerts. Il y a des vedettes aussi, on va dire. Il y a Nono qui est quand même le pilier.
Hein. Ouais, c'est le fondateur. C'est le cofondateur de la compagnie du Tirlaine en 92, donc ça date vraiment. Et ouais, à l'origine de grands groupes comme Taraf Décalé, Swingadjé. Et on a eu plein d'autres groupes aussi qui sont développés au sein du Tirlaine, mais ouais, il est toujours là.
Voilà, alors Taraf Décalé, je crois que c'est un des derniers albums avec Léyou et Funambule.
Ouais, c'est ça.
Alors, cette musique, je pense qu'elle est un peu symbolique, hein, de votre espace.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, à la base, la compagnie Tirlaine, à ses origines, c'était beaucoup autour des musiques de l'Est, des musiques tziganes, klechmer, manouche. Et en fait, au fil des années, au fil des rencontres et à l'élargissement un peu des différents groupes, on est parti sur plein de différents styles. Ça, c'est le dernier album du Taraf Décalé, qui est un peu la dernière grande formation musicale du Tirlaine, qui a été orchestré, composé et puis vraiment développé par Yann Denec, qui maintenant est notre nouveau directeur artistique, qui est quelqu'un qui travaille au Tirlaine depuis 20 ans maintenant et qui a repris les rênes en fait de la direction artistique de cette compagnie. Et du coup, il représente un peu tout le mélange, quoi. C'est-à-dire que lui, il a des influences tout autant maghrébines, algériennes, que des musiques tziganes, que de la musique classique, que en fait, le Tirlaine, c'est vraiment un mélange de tout ça. On mélange le spectacle vivant avec des créations qu'on a pu faire avec le Prato à l'époque. Là, un nouveau spectacle qu'on sort, c'est du spectacle de théâtre destiné aux jeunes. On fait beaucoup de ça. On fait des bals populaires qui peuvent aller du musette au hip-hop et au funk. On fait aussi des petites formations à deux, à trois, des quartettes. Et à chaque fois, on est capable de jouer à la fois dans un centre social quasiment gratuitement parce qu'on le fait, ou sur la grande scène de l'Opéra de Lille pour les 100 ans de l'Opéra de Lille. Et c'est un peu ça le Tirlane aussi. C'est cette espèce de liberté créatrice, de cette capacité de jouer partout, d'avoir des artistes d'une très grande qualité, et à la fois cette irrévérence et cet esprit politique qui nous a toujours animés. Ouais.
Alors le côté festif, mais aussi le côté vivre ensemble, qui est important.
Il est central. Le Tirlane vit en rassemblant les gens autour d'un projet commun. Bah, pour donner un exemple, par exemple, tous nos musiciens et nos techniciens sont tous payés pareil, peu importe les dates. Si le groupe se vend extrêmement bien, ils sont payés pareil qu'un groupe qui se vend moins bien. Ils seront payés pareil. Quoi. Vraiment, tout le monde est payé au même niveau pour que tout le monde s'implique de manière égale dans ce collectif-là. On organise aussi énormément d'événements dans lesquels nos artistes, tout comme nos équipes permanentes, etc., travaillent bénévolement sur nos événements de quartier, etc., qu'on essaie de développer. Et il y a vraiment cette notion d'espace de fête, de vivre ensemble et de faire culture ensemble. Et en fait, de lutter contre un peu les forces destructrices qui animent notre société et de pouvoir être ensemble, accueillir et pouvoir essayer de proposer quelque chose de différent. La fête et le politique en même temps. Quoi.
Alors, en ce moment, on sent quand même depuis plusieurs années des tensions dans la société, même au niveau international. Enfin, tout ça, j'imagine que ça interagit. On ne peut pas vivre coupé du monde. Et donc forcément, à Lille, on est aussi au cœur des préoccupations qui traversent l'espace international.
Exactement, j'ai envie de dire que ces préoccupations-là, elles nous traversent énormément au Tirlane, et que nous, puisqu'on est tous très engagés aussi politiquement, on n'est pas encartés, on n'est pas membres de partis, mais on a toujours été dans des mouvements humanistes qui sont battus tant pour la cause des personnes, des gens du voyage, la cause des exilés en ce moment, ce qui est vraiment une de nos plus grandes causes qu'on défend toujours, et toutes les questions politiques, sociales, économiques et culturelles qui nous traversent, avec des gens en fait qui viennent de plein de différents milieux. Nono était chaudronnier en métallurgie dans les hauts fourneaux avant d'être musicien. Donc il connaît le milieu de l'entreprise, il connaît comment le capitalisme peut rompre des corps et peut rompre des esprits. Et il en a fait aussi quelque chose, une inspiration dans sa musique. D'autres personnes qui travaillent au Tirlane viennent des quartiers très très populaires et ont vécu des vies qui étaient très difficiles. Donc on est loin d'être dans une espèce de bourgeoisie culturelle qui nous détacherait un peu des réalités du monde qui nous entoure. Au contraire, on est traversé tout le temps par des personnes qui viennent nous voir, des gens du quartier, qui nous racontent leur situation et qu'on vit leur situation avec eux. Et oui, quand on voit en ce moment cette espèce de dégringolade politique, humaniste, économique, sociale, où les gens cherchent encore un peu des repères, où tout est en train un peu de partir un peu à droite à gauche, en fait, nous, on a envie d'y répondre par de la positivité, mais aussi par de la réflexion très profonde. Parce qu'on est convaincu que les gens sont, que la France n'est pas de droite. Moi, en tout cas, on en est convaincu. Et donc, on va essayer d'aller puiser ça pour essayer de trouver des terrains d'entente commune en discutant avec les gens. Quoi.
Non, la France n'est pas de droite, mais on sent quand même des antagonismes où, on va dire, plusieurs conceptions du monde et de la société s'entrechoquent.
Très clairement. Après, c'est là tout l'objectif un peu de nos soirées Camanettes, en tout cas ce qu'on essaye de révéler, c'est qu'en fait, au final, ce qui ressort des discours, donc des discours qui sont les plus entendus, qui sont les discours médiatiques, qui sont les discours politiques, qui sont les discours en fait qui sont créés un peu d'en haut. Ils vont toujours dire que eux, ils sont juste le porte-parole du peuple et que le peuple pense comme ça. Donc quand le discours médiatique et la politique se droitisent, et on l'a vu avec les élections, on l'a vu avec les chaînes médiatiques, on l'a vu avec les médias, bah on a l'impression qu'ils font que refléter le peuple français qui lui-même se droitise. Mais nous, on est persuadés qu'en fait, le peuple français, déjà, il n'y a pas un peuple français, il y a plein de peuples qui habitent en France. Et surtout, les gens ont des aspirations communes. Et en fait, les gens, ils sont pas forcément fondamentalement racistes, ou ils ne sont pas forcément fondamentalement néolibéraux, ils ne sont pas forcément fondamentalement... En fait, les gens, ils ont des aspirations à vivre ensemble à peu près tranquillement, c'est juste qu'on ne leur donne pas de débouchés politiques pour qu'ils s'engagent politiquement. Et nous, on n'a pas envie de monter un parti ni quoi que ce soit, on a juste envie de discuter ensemble de c'est quoi vos problématiques, qu'est-ce que vous rencontrez tous les jours. Et comment est-ce que nous, on peut essayer de discuter ensemble pour y apporter peut-être une réponse. Au niveau micro-local, bien sûr, nous, on agit sur notre quartier, on agit sur notre ville, on agit sur notre petit territoire, à notre échelle, mais on essaie de faire ce qu'on peut.
Non, il y a dans les quartiers, justement, des comités de quartier. Après, il y a la politique de la ville aussi, avec des missions qui sont confiées à des opérateurs. On va dire ça comme ça. Donc, a priori, on peut imaginer que pour tous les types de problèmes, il y ait des référents qu'ils soient institutionnels, plus ou moins. Vous êtes un peu à l'écart de ces institutions.
Oui, maintenant on a toujours été avec le tiers-laine. On est très peu subventionné déjà, et quand on est subventionné, on l'est sur des projets artistiques, parce que c'est vraiment notre cœur, notre bataille, c'est le fait de créer, de faire de l'artistique, de créer de la musique, de créer des choses pour les gens. Tout le reste, toutes ces espèces de discussions, etc., toutes ces espèces d'expérimentations sociales et politiques qu'on est en train de mener en ce moment, ça on le fait pas dans un objectif d'être opérateur central par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui le font bien mieux que nous, et il y en a qui sont payés pour le faire, et il y en a qui sont subventionnés pour le faire, et pour être des espaces comme ça où les gens peuvent aller trouver des réponses spécifiques à des problèmes spécifiques. Nous, on n'est pas du tout ça, on n'a pas du tout prétention à l'être. Par contre, nous, ce qu'on est, tout simplement, c'est on est des citoyens. C'est pas parce qu'on est artiste que du coup on est détaché de la société, c'est pas parce qu'on est dans le milieu culturel que du coup on comprend pas, on n'a pas les mêmes problématiques que tout le monde. Et en fait, cette envie, elle émane de nous, elle émane de gens du quartier qui nous fréquentent très régulièrement, de réussir à juste créer ces endroits où on va essayer de reproduire un peu ce qui pouvait se passer dans les cafés du commerce à l'époque, mais en y insufflant une forme d'intelligence, de maîtrise et de contrôle, à travers notamment des interventions de sociologues, de journalistes, de spécialistes en fait dans des domaines particuliers qu'on a envie d'aborder avec les gens. Si les gens ils ont envie de dire mais en fait à quoi ça sert un député, eh ben on peut faire venir un député. On a un numéro d'un député, on les connaît, on connaît ceux qui représentent notre quartier. On peut le faire venir, on lui dit viens pas prêcher ta paroisse. T'es député, t'es pas venu ici pour convertir les gens à ton parti. Par contre, t'es venu ici pour t'expliquer auprès d'eux sur ce que tu fais. Et ça marche, en fait. Parce que du coup, on le fait pas dans un objectif d'être seul opérateur structurant sur une question sociale en particulier. Mais on est plus un endroit d'accueil où les gens peuvent se sentir accueillis, peu importe leur vision politique, peu importe ce qu'ils pensent, mais pour réussir à travailler, à développer de l'humanité ensemble.
Donc cette soirée Camanette de demain, donc à 19h, jeudi 26 septembre, 50 rue de Tuménil, est-ce que vous en faites régulièrement ?
Alors on a commencé à le faire cette année. À la base, c'était un projet qu'on voulait lancer à partir de 2025, mais en fait avec la précipitation des élections législatives et avec le spectre de l'extrême droite qui avait conquis, on va dire, les cœurs de plus en plus et qui risquait de conquérir l'Assemblée nationale, nous on s'est un peu mis en branle-bas de combat parce qu'on voulait déjà réussir à faire sens nous-mêmes de ce qui était en train de nous arriver, réussir à réfléchir tous ensemble et à savoir comment est-ce qu'on pouvait agir pour essayer de développer des idées humanistes à l'encontre totale des idées d'extrême droite. Parce que c'est toujours notre combat principal, ça a été le combat contre l'extrême droite et contre l'extrême libéralisme aussi. Et donc du coup en fait on a commencé à lancer ces camanettes pendant l'entre-deux-tours des... On en a fait une avant le premier tour des législatives 2024 et un autre pendant l'entre-deux-tours. Et en fait y a plein de gens qui sont venus. Au départ, on était 30, après, on était 50. Et en fait, l'idée, c'était juste de pouvoir échanger autour d'un barbecue, d'une saucisse, d'un peu de bière, d'un moment où on était tous ensemble en se disant « Voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Il y a des gros problèmes qui sont en train d'arriver. Nous, on a envie de pouvoir agir, on a envie de pouvoir en discuter entre nous. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser en tant que collectif, avec nos artistes, avec nos adhérents et avec les personnes-là? Et c'est comme ça que sont nées un peu les soirées Camanette. Camanette, dans le patois local, ça veut dire bavardage. Ça veut dire des gens qui discutent entre eux, et on ne sait pas trop où ça va. Donc c'est vraiment très expérimental pour le moment. Et là, du coup, ça va être notre troisième. Donc il y en a eu deux pendant les élections législatives. Et là, du coup, il y en a une troisième demain, et où l'objectif, en fait, c'est de commencer, nous, à créer un peu cette espèce de feuille de route, de savoir comment est-ce qu'on fait pour bien discuter avec les gens, et comment est-ce qu'on fait pour comprendre, au final, que tout le monde a envie de la même chose. C'est-à-dire vivre bien avec son voisin, être valorisé dans son travail, avoir une vie saine et douce, pas forcément avoir envie de gagner des milliards.
Donc il devrait y avoir des soirées camanettes dans tous les quartiers.
Eh ben c'est... Alors c'est pas ce qu'on vise, nous on n'est pas du tout capable de faire ça. Après, c'est un peu... Il y a des soirées de débat, mais qui sont beaucoup des soirées militantes. Et donc en fait, les soirées militantes, elles fonctionnent très bien, on n'a absolument rien contre, mais elles restent dans un cercle qui est quand même très... avec un vocabulaire qui est très militant, avec des temps de parole qui sont très militants, avec une organisation qui est très militante. Nous, on n'a pas du tout envie de prendre le contre-pied de ça, parce que les militants ont tout à fait le droit de s'organiser entre eux. Par contre, en effet, nous, notre idée, c'est le fait de dire ce qui manque en fait le plus aux gens, outre la défaillance des services publics, outre la défaillance du système médiatique, etc., où là, on ne peut pas y faire grand-chose, mais ce qui manque, c'est des lieux où ces gens-là puissent se retrouver, être accueillis, faire et vivre ensemble. Et en fait, on prend pour exemple une personne qu'on apprécie énormément et avec qui on s'entend extrêmement bien, qui est Cédric Héroux. Cédric Héroux, qui était la personne qui avait été condamnée par l'État pour être passeur de migrants à la frontière méditerranéenne avec l'Italie. Il n'était pas du tout, il avait juste aidé des gens sur un terrain à un moment. Et lui, il a toujours vécu pour ça, c'est-à-dire créer des lieux d'entente commun où les gens peuvent vivre, fêter, picoler, discuter de tout, mais en faisant ça, en faisant du politique, pas en discutant nécessairement, mais juste en faisant du politique, on crée du vivre ensemble qui, en fait, transmet des valeurs humanistes et fondamentales beaucoup plus efficacement qu'un discours ne pourrait le faire. Et nous, ça nous est déjà arrivé avec une dame qui est arrivée à la Camanette, qui disait moi je pense que, bah, moi au départ je voulais pas voter, puis je me disais j'allais peut-être voter extrême droite et tout, mais là en voyant qu'il y a tous ces gens-là autour de la table, qui discutent bien ensemble, qu'il y a des Arabes ici, il y a un gitan ici, ici il y a un blanc qui sort de Sciences Po, ici il y a machin, etc. Et tous ces gens-là autour, et qui parlent tous de la même chose, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre à vivre ensemble et de discuter un peu de politique, en fait elle a dit moi je pense que je vais voter à gauche.
Donc on a tendance depuis quelques années, une dizaine d'années, à fragmenter la société, à cloisonner les gens, à les laisser devant un terminal et pas forcément comme avant dans certains cafés où on pouvait discuter. Bon, je dis pas que tout le monde était parfait dans les cafés, hein, mais c'était quand même un lieu où on pouvait échanger avec des gens de nature différente et d'état d'esprit différent. En gros, ça faisait une moyenne. Et maintenant, on resitue ça à plus grande échelle avec les Camanettes.
Oui, à plus grande échelle. Après, ça reste vraiment une échelle qui... c'est pas un zénith qu'on remplit, c'est loin de là. L'idée, c'est que ça reste vraiment très circonstancié et vraiment très, très local. Après, tout l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que... nous, on sait que sur nos quartiers, en tout cas à Lille, il y a des quartiers qui sont très compliqués, bien entendu. Il y a des quartiers qui sont très populaires et aussi certains qui sont très pauvres. On sait que du coup, comme tu le disais, c'est peut-être une expérimentation à essayer de développer dans d'autres endroits, notamment dans le Pas-de-Calais, où nous, du coup, on n'a pas l'expérience, enfin, on ne sait pas ce qui s'y passe, on n'est pas habitant là-bas, on connaît très bien des villes comme Méricourt, etc., donc ça on voit, mais on voit très bien que du coup, il y a des endroits dans lesquels les gens ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de recréer ces endroits-là. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on essaie, à notre humble mesure, c'est ce qu'on essaie de faire là où on est.
Pour le coup, hier, j'étais dans le Pas-de-Calais, justement, à Noyelles-sous-Lens, où il y a un lieu culturel. Mais où était présenté le projet politique de la ville avec donc l'État, la région, les villes et puis aussi les habitants qui étaient représentés parce qu'ils ont aussi des endroits où ils peuvent échanger entre eux et puis faire remonter leurs réflexions, leurs besoins, leurs analyses. Donc voilà, je dis ça parce que certaines villes sont dans le dispositif d'aide qui donne droit à des aides, hein, politique de la ville, et d'autres pas. C'est un peu compliqué pour les maires de gérer ces quartiers qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Et notamment, il y a la ville, alors ça doit être Montigny-en-Guelle, ou Courcelles-lès-Lens plutôt, où ils étaient il y a 5 ans sortis du dispositif. Donc ils se plaignaient qu'ils n'avaient plus d'aide forcément pour ce quartier particulier. Et là, ils ont retrouvé l'accès à ça, parce qu'il y a une autre commune qui a dit ben non, on va laisser la place finalement, vous avez plus de besoins que
nous.
Oui.
Oui,
donc ils arrivent à s'entendre parfois entre élus, peut-être de sensibilité identique. Mmh. Et donc voilà, en fait, il y a un vrai dilemme, c'est pour avoir des moyens, dans le cadre de la politique de la ville, il faut que ce soit un quartier pauvre.
Qu'est-ce qu'on définit
en grande
comme étant...
difficulté, donc il y a des paramètres, enfin ils savent analyser ça, il y a des tableurs Excel,
oui.
Et avec tout ça on définit qui va avoir cette priorité. Donc j'ai fait des reportages là-bas, donc on les écoutera dans les prochaines semaines sur Radio Campus, hein, mais j'ai pas posé cette question, je la poserai à un autre moment à des élus directement, c'est ceux qui sont en politique de la ville, alors je pense à un en particulier qui disait, il était assez fier de rester depuis longtemps en politique de la ville avec des moyens, parce qu'il a des grandes difficultés dans la ville, mais je me suis demandé à un moment donné s'il avait vraiment envie d'en sortir, parce que comme ça lui ramène de l'argent ce quartier-là, il n'y a pas forcément intérêt à perdre cette manne, et donc avoir des pauvres dans ce quartier-là, c'est plus intéressant que les disperser dans la ville.
Ouais, c'est certain. Ouais. Ah oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Ou parfois, des politiques publiques qui peuvent partir de bonne volonté, c'est-à-dire d'essayer d'investir dans les quartiers pauvres, créer des espèces d'effets pervers derrière. En fait, finalement, on va continuer à cloisonner les gens parce que vous comprenez. Mais même dans les mentalités, ça se fait aussi. Dès qu'on commence à parler de quartiers prioritaires, dès qu'on commence à parler de ZUP ou de ZEP, même qu'on commence à parler de lycées difficiles ou de collèges difficiles, en fait, on labellise déjà avant même d'être rentré dans cet endroit-là, avant même d'avoir rencontré les gens, avant même de savoir ce qui s'y passe vraiment, on labellise comme étant quelque chose de dur, quelque chose de difficile. Et en fait, le fait de foutre des labels comme ça, un peu comme le font beaucoup de politiques publiques, c'est-à-dire qu'il faut labelliser les choses, du coup, on va pas dire quartier difficile, on va dire quartier prioritaire maintenant, enfin bref, il y a toute une évolution un peu du langage. Nous, ce qu'on a envie de montrer, justement, c'est qu'on est dans un quartier qui est populaire, on est dans un quartier qui est certes difficile, etc., mais tout quartier, n'importe quel quartier, gagnerait à avoir une vie culturelle, sociale, riche, avec des lieux où les gens peuvent se rencontrer, avec des lieux où les gens peuvent créer du vivre ensemble, et qu'en fait c'est les quartiers où il n'y a pas ces lieux-là qui sont des quartiers qui, bien entendu, sont voués un peu à disparaître, parce que les gens n'arrivent pas à créer du vivre ensemble. Il y a les maisons de quartier, les centres sociaux, les MJC, les choses comme ça, c'est ça vraiment dans lesquels il faut investir à fond. Mmh. C'est ces lieux-là qui vont réussir à créer du lien, à créer du soutien pour les jeunes, je sais pas. Genre. Et nous, en fait, je dis pas qu'à Moulins, à Lille, il n'y en a pas, bien entendu, il y en a plein. Mais nous, du coup, c'est pas notre rôle, mais on est content d'en être. Et on est comme, on n'est pas non plus un bar de quartier, on est un lieu un peu hybride, un peu différent. Je veux dire, le bar de quartier, le derby, à Place d'un Anacœur à Moulins, est un lieu qui crée un mélange improbable entre des gens. Quoi.
Alors, cet été, il y avait également, hein, dans la région lançoise, Liévin, etc., des animations sur le Val de la Souche, qui est une rivière hein, qui passe là, avec des guinguettes, etc. Donc on retrouve quand même cet esprit-là.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez fait des propositions d'animation.
Ah bah si, non mais nous, ça fait... en fait, nous, quand on crée des animations, en tout cas des projets d'action culturelle avec le Tirlen, toujours, ça en revient toujours à la même chose. Là où les gens nous veulent, là où les gens nous apprécient beaucoup, c'est dans cette espèce d'ambiance, en plus de la musique. C'est l'ambiance que nos artistes arrivent à créer. Une ambiance de convivialité où en fait, oui, ça fait guinguette, bien entendu. On a des accordéonistes à tout va, on a des... mais en fait, c'est des guinguettes qui peuvent parfois partir dans du free jazz expérimental et revenir sur une chanson de 1940, mais sans problème, quoi. Et oui, en effet, les gens, ils recherchent vraiment ça. Les guinguettes, très souvent, ce sont des lieux parfois éphémères, souvent des trucs qui ouvrent pendant l'été. Pendant l'été, du coup, ça veut dire que ça ouvre pendant le moment où les gens peuvent partir en vacances, peuvent profiter un peu des endroits, etc. Mais il y en a plein qui ne peuvent pas. Nous, quand on parle, et c'est vraiment notre credo au Tirlen, c'est quand on parle de culture locale de proximité, ça veut dire culture locale de proximité à l'année.
Alors justement, beaucoup de lieux culturels, enfin la plupart, hein, pendant l'été, sont fermés. Hein. Donc, on va dire que c'est un certain public qui n'a pas forcément besoin pendant l'été de... C'est entre guillemets distraction qui part en vacances et d'autres qui restent là avec pas forcément beaucoup de choses qui peuvent les motiver, les
inspirer.
Je suis
totalement d'accord.
En ouverture surtout. Parce qu'on peut toujours faire des guinguettes, des balles, mais parfois amener un peu de culture aussi dans ces quartiers à des gens qui, pendant un spectacle, peuvent aussi avoir. Une irrigation culturelle, ça peut être aussi le moment de le faire.
Bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit fait hors sol non plus. Faut pas que, parce que on s'en rend compte à chaque fois que quand il y a un truc qui n'a rien à voir dans un quartier qui arrive avec une grosse installation un peu folle, les gens ils arrivent en disant « dans le quartier de Moulins, on a développé ça avec des architectes, des machins et tout, on va faire ça ». En fait, les gens, ça les concerne pas. Ils n'ont pas forcément envie de s'embarrasser avec ça. Ce dont ils ont, je pense, envie, et moi-même je me compte tout à fait dedans, c'est des lieux réguliers, et c'est des espaces réguliers dans lesquels on peut se retrouver et on peut réussir à profiter d'une offre culturelle riche et variée. C'est surtout ça, je pense, ce qui ferait vraiment plaisir aux gens. Et après, oui, c'est sûr que il y a des théâtres, par exemple, qui ont vocation à faire des spectacles pour enfants, qui ferment leurs portes pendant l'été.
Mais oui. Il y a encore des enfants l'été à Lille. Hein, c'est
oui.
À Lille et ailleurs. Hein. On parle de Lille, mais on pourrait aussi parler de tout le territoire de la Melle et même au-delà où. Forcément, on retrouve un peu les mêmes problématiques, peut-être moins en Marcq-en-Barœul, voilà, mais globalement, la Melle, je pense, est une des régions les plus en difficulté d'un point de vue économique, avec Lens, deuxième région, enfin Lens, les vins, hein, deuxième région sinistrée d'un point de vue économique, d'une certaine manière. Donc, effectivement, il y a un public qui est un peu... pas l'abandon forcément, mais qui ne connaît pas forcément les ressources aussi de sa ville. Et ça aussi, on peut leur faire connaître.
Oui, tout à fait. Nous, l'idée aussi, c'est parfois, voilà, quand on voit des... Nous, si on peut être un peu médiateur un petit peu entre des lieux ressources et puis des personnes qui ont besoin d'avoir des coups de main, on serait absolument ravis de le faire. Nous, ce qu'on essaye vraiment d'être, simplement, c'est d'essayer de toujours... en politique, en artistique, de juste développer des moments où les gens se sentent bien ensemble. À partir
donc,
de là.
Cet été encore, je me suis promené, alors je ne sais pas si c'est c'est en venant de chez vous, tiens, du côté de la rue d'Arras, enfin
ouais.
Voilà, et donc là, il y a la Maison Folie. Hein, mm-hmm. Et je suis rentré, c'était un dimanche, je crois, hein, la fête.
Ouais.
C'était un dimanche. Hein.
Mais je suis, c'était un dimanche.
Et je suis rentré, c'était ouvert, la Maison Folie Moulin.
Le flow. Ouais, là où il y a le flow
c'était
aussi. Il y a les deux. Ouais.
Et l'endroit était sympa, un bar et tout, des tables bien accueillies, mais personne. Enfin, j'étais seul, quoi. Donc j'ai trouvé ça étonnant qu'un lieu ouvert le dimanche, toute la journée, soit aussi peu fréquenté, alors que c'est un espace disponible et abordable.
C'est très compliqué, je pense, là, de d'ouvrir la fréquentation d'un lieu culturel à des nouveaux publics. La gratuité des événements, la disponibilité des lieux, des trucs, n'est absolument pas une condition à ce que des gens qui ne partent pas en vacances y aillent ou se disent qu'ils peuvent y aller. C'est vraiment qu'une question symbolique, en fait. Et ça prend énormément de temps, nous, avec le Tierlen, alors que quand même, on a un lieu qui est quand même estampillé comme un lieu populaire un peu par excellence. Je veux dire, c'est pas... on a beaucoup de mal, on a toujours eu beaucoup de mal à réussir à faire en sorte que les gens du quartier nous identifient, sachent ce qu'on fait. Alors c'est compliqué même, enfin pour n'importe qui, c'est compliqué de savoir exactement ce que c'est que le Tierlen, parce que c'est quand même une grande pieuvre avec plein d'activités différentes. Mais vraiment, pour réussir à dire aux gens qui sont les bienvenus, qui peuvent venir et qui sont là chez eux, ça prend du temps. Et même si nos événements sont gratuits, même si on accueille plein de gens du quartier, même si, etc., c'est toujours un peu galère. Et tout simplement parce que il faut réussir à créer à travers l'habitude. Il n'y a pas d'autres solutions. Les balles des beaux dimanches qu'on avait organisées à la condition publique à Roubaix, par exemple, c'était il y a des années, on en faisait un par mois. C'était un bal populaire par mois avec 10 musiciens sur scène et c'était vraiment ouvert pour les familles du quartier. Donc le quartier autour de la condition publique. Premier bal, 20 personnes. Deuxième bal, 40 personnes. Troisième bal, 60 personnes. Et il a fallu attendre au moins quasiment un an de un bal par mois pour qu'au bout d'un moment, il y ait systématiquement 600, 700, 800 personnes. Et c'était les gens du quartier qui venaient. Mais en fait, c'est juste parce que c'était un lieu régulier dans lequel ils savaient qu'ils pouvaient danser, faire la fête, s'amuser, etc. Mais il a fallu ce temps-là. Parce que les gens n'ont pas forcément s'informer via les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas forcément s'informer via les trucs. Les gens ont juste besoin du bouche à oreille pour que ça fonctionne. Quand on parle des événements très, très locaux, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que ça soit hors sol, il faut que ça soit régulier et vraiment présent et que les gens se sentent accueillis et se sentent chez eux.
Alors, toujours dans la région lensoise, il y a aussi la ville de Grenay. Oui. Tu connais ? Donc, il y a Ali, tu connais Ali, qui est le directeur au départ de l'espace Ronnie Cooter.
Oui, oui.
Mais maintenant, il est directeur des services de la ville, donc il n'a pas le temps de tout faire, mais il a quand même un peu la main sur la programmation culturelle. Ouais. Et il y a toujours des rendez-vous avec le public qui sont intéressants. Parfois, il fait appel à une compagnie à côté de Lille pour préparer les habitants à intervenir sur scène autour de leurs problématiques.
Ah ouais,
donc ça, c'est chouette. Et il fait aussi jouer par des comédiens les scènes qui sont suggérées par les habitants du territoire en racontant leurs petites histoires.
Ouais,
et, et ça, c'était tous les mois. Il y a un moment, c'est assez génial. Et là, pour le coup, il a du monde.
Bah ouais, en fait, c'est ça. Bon, nous, on y joue souvent. Là, on y a joué, d'ailleurs, il y a quelques semaines à Grenay, avec un bal aussi là-bas. On y va assez souvent. Mais oui, en fait, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, d'essayer de prendre un petit peu de risque et de se dire non, je vais y aller, je vais y croire, ça va marcher. J'y vais pas pour faire du chiffre tout de suite, j'y vais juste pour créer de l'humanité et puis pour créer un endroit. Et avec des dispositifs expérimentaux comme ça. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment, les gens, au bout d'un moment, ils viennent, ils se sentent concernés et c'est blindé de monde. Et ça, tu peux que le faire en développant des actions culturelles ou en tout cas des actions vivantes. De manière un peu spontanée, quoi, aussi.
Voilà, donc demain, belle journée de rencontre et d'échange avec vous, votre public, et pas que votre public habituel, c'est ça l'idée ?
Voilà, c'est ça. Alors demain, on aura la chance, pour notre troisième soirée Camanette à 19h, on aura la chance d'accueillir Gauthier Ribinski, qui est un vieil ami du Tierlen, mais qui est aussi journaliste et spécialiste des questions internationales à France 24. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été là, un peu autour du Tierlen, etc., qui est toujours intervenant sur France 24 pour parler de la situation au Proche-Orient, de la situation en Russie, en Ukraine, etc. En fait, il vient pas pour faire une conférence. En fait, il vient juste pour passer du temps avec nous, parce que nous on le connaît très bien, mais aussi passer du temps un peu avec les gens qui sont autour. Il faut vraiment voir ça comme une espèce de grande tablée où il y a à manger, où il y a à boire, on peut se poser. Et puis il y aura quelques paroles au début, il y aura quelques prises de parole où les gens pourront parler un peu de sujets qu'on a envie d'aborder. Mais surtout après, c'est tout le monde parle. Tout le monde peut parler, et surtout ensuite, tout le monde peut parler entre eux. Il n'y a pas le but de prendre la parole devant 50 personnes, hein, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment essayer de créer du commun à partir de questions politiques qu'on se pose. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça sera plus sur les questions internationales, peut-être que la prochaine fois, on va plus aborder, je ne sais pas, les médias. Ou alors, on va faire un peu un sondage de quartier, c'est ce qu'on a envie de faire, pour savoir de quoi les gens ils ont envie de parler. Est-ce qu'ils ont envie de parler de pouvoir d'achat, nous aussi on a envie d'en parler. Ah bah, ça tombe bien, on connaît une personne qui est spécialiste là-dedans, peut-être qu'il pourrait venir, etc. Ou alors, si on n'a personne, tant pis, on en parle juste entre nous.
Non, pour revenir à Lens-Liévin, l'aglo, ils ont réalisé un sondage des personnes pour demander quelles étaient leurs priorités pour les prochaines années, selon eux. Donc ils se servent de ce sondage-là, hein, qui est quand même un certain succès, pour, je ne vais pas dire complètement répondre à ces attentes-là, mais au moins les avoir en perspective dans une globalité, un projet politique d'agglomération.
Bah, carrément, et puis surtout que on a un peu cette vision-là que la politique, en tout cas en France, elle se définit essentiellement à travers les grandes élections nationales, les élections présidentielles, les élections législatives, qui définissent les grands cadres de l'État, etc. Ça, c'est très vrai. Mais en fait, c'est surtout les élections municipales et régionales qui jouent vraiment sur notre avenir à nous. Et ça passionne personne. En fait, ça devrait passionner tout le monde. Parce que ça veut dire que toi, dans ton quartier, là où tu habites, tu as une voix pour réussir à faire changer les choses dans un quartier, dans une ville, dans un truc.
Ce qu'on peut peut-être reprocher à ce genre d'enquête, parce qu'en fait, il faut répondre, il y a trois solutions. Hein.
C'est toujours très
peut-être orienté. C'est le manque d'accompagnement par rapport aux réponses qu'on aimerait voir exprimé de manière stratégique. Peut-être qu'il y aurait un intérêt à faire des petites discussions autour d'un sujet et après donner le questionnaire sur 3 ou 4, peu importe. Et après, on passe à un autre sujet où on débraye un petit peu le sujet pour que les gens soient sensibilisés au contenu global avant de faire des choix. Sinon, est-ce que tu veux que la route aille vers la droite ou vers la gauche ou au centre ? Voilà, ça, quelque part, c'est des choix qui n'ont pas trop d'intérêt. Mais dans un contexte qui est débattu avant, avoir ce choix après, ça pourrait être vraiment intéressant.
Ouais, bah oui, carrément. Et en fait, pareil, encore, on parle d'une question d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne vont pas s'investir en politique ou essayer de jouer le jeu d'être un citoyen. À partir du moment où ils se désintéressent, ils ont toutes les raisons du monde de se désintéresser de la politique. Quand on voit le flot de déceptions qui arrive, élection après élection, on a l'impression que ça ne va rien changer. Et dans les médias, on a un flot de gens qui disent voilà, c'est comme ça et c'est tout. Mais en fait, à force d'avoir l'habitude de parler politique, à force d'avoir l'habitude de vivre politique, à force d'avoir l'habitude de s'intéresser un peu à ces sujets-là, nous, c'est ce qui se passe au Tierlaine, de toute façon, tout le monde est plus ou moins politisé, on en discute beaucoup entre nous. Et bien, à partir de ce moment-là, on arrive à s'accompagner tous ensemble pour réussir à définir ce que c'est que ces citoyens, comment est-ce qu'on peut s'engager. Et donc, du coup, bien répondre aux questions qu'on nous pose. Mais surtout aussi, les poser nous-mêmes. Et c'est aussi ça ce qui est important. On va pas attendre que quelqu'un fasse un sondage sur est-ce que tu veux une zone pavée ici ou pas, ou alors est-ce que tu veux un tronc d'arbre ici. Il y a peut-être d'autres questions un peu plus fondamentales. Et est-ce que je peux pas essayer d'y apporter une réponse ?
Voilà, donc quand on dit démocratie participative, c'est large et à chacun de s'en emparer.
Exactement. Et c'est expérimental encore. Donc on verra, mais sans oublier qu'à chaque fois, on essaie de rendre ça pas trop chiant, quoi.
Donc demain soir, 19h, au Tierlaine, hein, donc on rappelle l'adresse 50 rue du Ménil, le métro, c'est Porte d'Arras.
Ouais, Porte d'Arras ou Porte de Douai, c'est
Porte de Douai, voilà, et donc dans ce jardin extraordinaire, l'occasion de discuter, papoter entre Camanette au Tierlaine.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à toi, René.
À bientôt, Vlad.
À bientôt.